25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus sur Radio Immo.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission 25 millions de propriétaires, l'émission des propriétaires, par les propriétaires, pour les propriétaires et bien sûr pour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier de près ou de loin et à la propriété privée. Le thème de l'émission aujourd'hui sera l'immobilier commercial, son avenir à la lumière de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Nos invités, Anne Lefort, avocat en droit des affaires et en immobilier d'entreprise, Jean-Louis Racco, qui est avec nous en duplex depuis La Rochelle, président de la Chambre des propriétaires de La Rochelle, UNPI 17, Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, et Gérald Barbier, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en charge du commerce. Merci de votre présence et nous serons bien à votre écoute de vos relais et de vos capacités à entreprendre, à comprendre cette crise. Mais avant de donner la parole à nos invités, je vous propose d'écouter l'édito du Proprio.
25 millions de propriétaires, l'expertise.
Comment préparer le retour à la normale pour les commerces? Comment gérer cette crise qui tombe au pire moment de l'année, juste avant la période de Noël, qui est une période faste pour les commerçants? Comment fluidifier les échanges entre les bailleurs et les preneurs afin de cibler les aides? Comment préparer la nécessaire diversification des modes de vente, le click and collect, les sites web marchands, les plateformes, etc. À savoir que les artisans sont aussi dans cette crise, dans cette bataille. Les coiffeurs, les bijoutiers, les fleuristes, les photographes, etc. voient leur chiffre d'affaires fondre et espèrent une rouverture rapide pour rattraper leur retard avant Noël. Il y a aussi l'hôtellerie-restauration qui souffre énormément de cette crise et le rattrapage estival n'a pas suffi pour bon nombre d'entre eux, notamment dans l'hôtellerie de luxe, fleuron français, où certains jours de chiffre d'affaires représentent seulement la vente de 2 cafés. Les moyens technologiques et les habitudes prises par ailleurs par les entreprises vont aussi peser sur le tourisme d'affaires. Les bailleurs, quant à eux, les bailleurs de tout type, institutionnels, individuels, bailleurs foncières, plus ou moins grandes, cotées ou pas, sont des investisseurs, eux, indispensables, qu'il faut absolument soutenir. Dans cette crise, ils participent pleinement à l'activité économique sur tout le territoire et s'intéressent légitimement au paiement du loyer et des charges par les preneurs dans un environnement mouvant où d'ailleurs la durée des fermetures administratives dues au confinement leur est inconnue. Aménager le paiement des loyers, que ce soit une allocation, une remise de loyer ou un étalement, sur une fermeture d'un mois, ça n'est pas la même chose que pour une fermeture de plusieurs mois et dont la distance est incertaine. Cette crise donc touche tout le monde, les locaux commerciaux locaux, le commerce d'enseignes plus internationales. On a vu la fermeture prochaine et envisagée de Gap, le commerce de périphérie ou le commerce de centre-ville, qu'il soit de pied d'immeuble ou en centre commercial, que ce soit le luxe, le prêt-à-porter, les bailleurs ou les preneurs. Tout le monde est évidemment touché et il est exclu de tomber dans une opposition stérile du pauvre locataire qui serait indigent face aux riches propriétaires pouvant consentir à toutes les concessions. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ni l'un ni l'autre n'est responsable de la décision de fermeture administrative. Bailleurs et preneurs sont les deux faces d'une même pièce. Et en cela, il convient de saluer une mesure qui a été prise il y a quelques jours et qui sera votée dans la loi de finances, qui est le crédit d'impôt qui prend en charge une partie des loyers, 50%, qui est obtenu par l'ensemble des représentants des commerçants et des bailleurs qui se sont mis d'accord sur cette aide qui sera un soutien motivant et efficace pour tous. Poursuivons donc en ce sens avec les collectivités territoriales qui bénéficient, c'est vrai, d'une fiscalité payée par les entreprises et les particuliers, que ce soit la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises, afin qu'ils puissent soutenir les acteurs économiques locaux. Mais avant de passer au débat avec nos invités, je vous propose d'aller sur le terrain avec l'excellente Fanny Bourdin qui est allée prendre le pouls de la situation.
Derrière le rideau de fer de son restaurant, Stéphane Cachelin se demande comment il va réussir à payer ses traites.
On me donne un bail d'exploitation d'un restaurant et l'État ne me permet pas de payer ce bail puisqu'on me ferme mon activité. Donc j'arrive pas à comprendre en fait, ça tourne en rond dans ma tête. C'est-à-dire que si on vous vendait une voiture et qu'on vous remettait pas les clés pour la faire démarrer quoi.
Des commerçants qui se sentent démunis, les bailleurs vont certes pouvoir défiscaliser à hauteur de 50% les loyers de novembre, mais vont-ils jouer le jeu? Début de réponse avec Brice Moïse, président de l'association des commerçants, le PICABES.
Les bailleurs ne feront aucun effort à 50% de défiscalisation, comme ils disaient non à 30%. Je pense que les bailleurs vont voir à court terme. Ça, c'est mon analyse.
Une vision claire, nette et précise, en partie partagée par Jean-Claude Richard, directeur du groupe Altim et bailleur également. Il faut, d'après lui, attendre la loi de finances.
Pour être sûr, il faut attendre la loi de finances. Les bailleurs vont pouvoir se positionner en connaissance de cause.
Un constat épineux qui ne va certes pas aider les commerçants aujourd'hui.
Gontran Turing, qu'est-ce que ces témoignages de terrain, à quoi vous font-ils penser? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Cette situation entre les bailleurs et les preneurs est-elle en passe d'être résolue? Ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs lors de la première phase, le premier confinement où les relations étaient quand même beaucoup plus tendues.
Alors il est évident qu'il y a un certain nombre de commerçants qui sont dans une situation très compliquée, pour ne pas dire catastrophique. Puisqu'en plus cette épidémie est arrivée après des épisodes de grève, des gilets jaunes, donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour un certain nombre de commerçants. Deuxième point est évident qu'aussi bien du côté bailleur que du côté commerçant, il y a des situations très différentes. Il y a des petits commerçants, sans que ça soit péjoratif, et puis des grandes chaînes internationales qui ont évidemment les reins beaucoup plus solides, et la même chose du côté bailleur. Alors, lors du premier confinement, on avait réussi sous l'égide d'une médiatrice, Jeanne-Marie Prost, a signé ce protocole de bonne conduite. Bon, malheureusement, toutes les associations de commerçants ne s'y étaient pas associées. Cela dit, du côté bailleur, cette charte a été strictement respectée et elle a permis, je dirais, pour les centres commerciaux, à 80% de régler le problème, le sujet des loyers concernant les 2 mois du premier confinement. On a fait mieux pour le second confinement. Bon, je rappelle que pour le premier confinement, l'État n'a pas mis la main à la poche concernant les loyers. Bon, bien entendu, il y a eu le chômage partiel, il y a eu les PGE, il y a eu le Fonds de solidarité. Donc l'État a bien joué son rôle. En revanche, sur les loyers, rien n'avait été fait du côté de l'État. Donc on s'est battus tous ensemble, aussi bien, je dirais, association de bailleurs qu'association de commerçants. Et effectivement, la semaine dernière, on a signé ce protocole sous l'égide de Bercy, de Bruno Le Maire et du ministre Griset, qui prévoit donc un crédit d'impôt qui va couvrir donc 50% des 100% de franchise de loyer pour le mois de novembre au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés et donc 33% de 66% pour les entreprises de 250 à 5000 salariés. Cette fois-ci, il est co-signé par l'Alliance du commerce, par Procos, par la FCA. Donc je crois que c'est un bon accord. Bon, bien entendu, on espère qu'il ne devra s'appliquer qu'au mois de novembre. Et comme vous le savez, on se bat pour une réouverture maintenant des commerces le 27 novembre, si possible. Ça fera 5 week-ends d'ici la fin de l'année. Ce sont 5 week-ends, vous l'avez rappelé dans votre introduction, qui sont fondamentaux pour le commerce.
Jean-Louis Racot, vous êtes, vous, président d'une chambre de propriétaires. Vous représentez plutôt la frange particulier, petit bailleur qui a aussi de nombreux petits commerçants, commerces de pièces d'immeubles, mais pas seulement, et vous les côtoyez au quotidien. Vous êtes vous-même propriétaire bailleur de locaux commerciaux. Comment vous ressentez les choses sur le terrain, à La Rochelle, là où vous êtes, et ses environs, notamment au niveau de la conflictualité, mais aussi sur les mesures qui sont prises par le gouvernement? Est-ce que cette fois-ci, elles sont à la hauteur des attentes de chacun?
Alors, sur le terrain, j'allais dire que c'est un peu ce que disait monsieur, c'est que la situation est quand même contrastée et que le dialogue ou la négociation n'est pas la même lorsqu'on a affaire à un petit, c'est pas péjoratif non plus, mais un petit commerçant d'un local commercial en pied d'immeuble, ou alors quand on est en négociation avec un grand groupe national qui a plusieurs centaines de points de vente en France, et avec lequel les négociations sur les loyers et devient compliquées, notamment pour un petit bailleur, entre guillemets, un petit bailleur qui n'a pas les reins, qui n'a pas une assise financière, on va dire, qui lui permet de négocier de façon dure. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le premier confinement en disant que, pour dire que la plupart, quand même, on a trouvé des accords avec 90-95% de nos commerçants, parce que contrairement aux très grosses foncières, les propriétaires sont en contact direct avec le commerçant ou le patron du magasin. Et on a une espèce de relation, j'allais dire une relation pas affective, mais on a vraiment une relation d'homme à homme, on a une relation humaine avec le commerçant. Et ça, dans les négociations, ça joue forcément. Et moi, je dois dire que dans mon expérience personnelle, on a négocié local par local et commerçant par commerçant. Et on a trouvé des accords, que ce soit des exonérations de loyer pour ceux qui étaient le plus en danger, que des reports ou des étalements de loyer sur des durées qui sont parfois assez longues. Donc voilà. Alors pour répondre à votre deuxième question, la mesure sur le crédit d'impôt me semble très bonne. Mais un des témoins là que j'entendais dans le reportage, on va quand même effectivement attendre la loi de finances et le texte de loi qui fait référence à ce crédit d'impôt. Donc je suis quand même partagé. Voilà, on trouvera des accords avec les plus faibles, mais avec les plus puissants, vous voyez, pour rien vous cacher, sur le premier confinement, on a un grand groupe qui nous a dit stop, j'arrête de payer, point barre, et ça leur fait pas peur d'aller au procès, ils le font avec leurs 300 ou 400 magasins, et donc ça peut durer très longtemps, quoi.
Justement, Jean-Louis Racco, je rebondis sur ce que vous dites, c'est-à-dire que la disparité se fait peut-être pas tellement entre foncières et petits propriétaires, mais grandes enseignes avec grandes chaînes de magasins et petits commerçants plus indépendants ou franchisés, où le dialogue était plus simple et plus facile, parce qu'il n'y avait pas le poids derrière d'une grosse institution qui préparait des courriers, on se souvient, c'est vrai que certains n'ont pas tellement joué le jeu, étaient assez agressifs vis-à-vis de leurs bailleurs, quelle que soit leur situation. Nous, on l'a ressenti. Je crois hein, que les petits commerçants, certains avaient le dialogue plus simple qu'avec d'autres. Des sondages qui ont été faits notamment par l'UNPI le démontrent. C'est vrai que les grandes enseignes de grandes marques, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément fermées, ont demandé ou ont tout simplement imposé le non-paiement du loyer.
Ouais. Ou conseiller, ou alors les grandes chaînes de franchisés, conseiller leurs franchisés, la façon de répondre à leur bailleur, ou la façon de mener la négociation en se dédouanant totalement du contrat en cours. Y a un élément quand même que je veux dire, c'est qu'on, dans les négociations qu'on peut avoir avec nos locataires, on nous demande... Enfin, on appuie sur le point sensible de la solidarité ou de le sens des valeurs humanisme que l'on doit avoir avec nos locataires et qu'il faut qu'on partage avec eux la crise. Bon, c'est un fait, mais souvent, moi, ce que je réponds à mon locataire, mais c'est que quand la croissance est là, que votre chiffre d'affaires est en pleine croissance, vous faites des bénéfices, on n'est pas associé aux bénéfices de votre entreprise. Donc, c'est toujours compliqué de répondre. Vous voyez, le problème, il reste complexe. On ne peut pas demander au bailleur de partager ses risques avec son locataire, alors que à l'inverse, on lui propose pas de partager les gains. Bon, il y a certains baux qui le prévoient, mais bon. Après, il y a une autre chose que vous l'avez dit dans votre édito, Pierre. On a entendu beaucoup de maires qui ont joué la carte de la solidarité en disant on va faire des arrêtés, faut rouvrir le petit commerce. D'ailleurs, ce sont des arrêtés qui étaient illégaux, donc c'était pour moi beaucoup de communication qu'il y avait derrière ça. Moi, j'appelle quand même les maires et les collectivités locales à faire un effort, par exemple, il y a un effet de levier, un point de levier. On sait que dans la plupart des locaux commerciaux, des baux commerciaux, la taxe foncière est rechargée aux locataires, que les collectivités locales, les présidents de collectivités locales et les présidents de départements prennent leurs responsabilités et fassent une exonération de taxe foncière sur un trimestre, par exemple, de l'année 2020, c'est, il y a eu 3 mois d'arrêt, donc ça me paraîtrait une bonne action de la part des collectivités locales. On demande toujours à l'État de faire ses efforts, aux collectivités de le faire, sachant que sur les dernières années, une des grosses ressources des collectivités locales sont les droits de mutation. L'immobilier a été en forte croissance sur ces dernières années, donc je pense qu'ils ont des marges de manœuvre pour pouvoir accéder à ce type de demande.
Effectivement, cette question des ressources des collectivités locales et de l'aide qu'il peut y avoir par celle-ci aux propriétaires et donc directement aux locataires, notamment sur les impôts fonciers, mais il y a d'autres systèmes. Il y a des collectivités locales qui ont dit qu'ils prendraient en charge directement les loyers des commerçants concernés par les fermetures administratives. Je voudrais revenir simplement avec Anne Lefort sur la question de la conflictualité de la relation propriétaire-locataire, preneur-bailleur-preneur, c'est plus adéquat pour les locaux commerciaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater dans vos clients, qu'ils soient bailleurs ou commerçants d'ailleurs, dans le premier confinement et puis maintenant aujourd'hui où il y a l'inquiétude qui est forte avant Noël?
Alors aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt. Par rapport au premier confinement, effectivement, je pense que tout découle du discours quelque peu maladroit du président de la République lors de la mise en place des premières mesures, qui a évoqué tout de suite la notion de suspension de loyer qui en réalité ne s'est jamais traduite dans les textes. Au final, aucune disposition ne permet aux locataires d'être dispensés du paiement de son loyer. Les loyers commerciaux restent dus durant toute la période de confinement et je dirais que peut-être cette maladresse qui a créé un élan d'espoir par rapport au commerce qui était fermé a généré un conflit entre bailleurs-preneurs, qui s'est traduit, évidemment, plus le temps avançant en période de confinement, plus le conflit s'est avéré lourd, puisque le commerçant n'arrive pas à faire face à son loyer. Alors, diverses mesures ont été mises en place, et il y a un véritable dialogue qui s'est installé entre bailleurs-preneurs, mais je dirais que ça relève plutôt de l'ordre des mesures privées, puisqu'effectivement, le gouvernement, lors de ce premier confinement, contrairement au deuxième confinement où là on nous parle d'un crédit d'impôt, donc on avance sur une mesure, sur une solution concrète, lors du premier confinement, on a laissé un petit peu les bailleurs et les preneurs se débrouiller. Alors avec un petit bailleur, personne physique ou un grand bailleur institutionnel, un petit commerçant ou une enseigne avec des centaines de points de vente, je dirais que la question était la même. Les outils ont été développés, il y a eu un gros effort de médiation qui a été mis en place, évidemment. Je rappelle aussi l'existence des commissions de conciliation des baux commerciaux, avec un élargissement depuis le mois de juillet du rôle de ces commissions, notamment pour pouvoir traiter des loyers Covid. Donc le rôle de ces commissions, c'est d'aider à un dialogue. Et il est bien évident que l'effort formidable de solidarité entre le bailleur et le preneur, ou du bailleur pour le preneur, ne peut se traduire que parce qu'il y a un rapprochement, une discussion et une concertation. Donc l'idée, c'est vraiment de réconcilier ces deux parties. On commence à avoir de la jurisprudence. Bien évidemment, il y a eu des demandes d'annulation de loyer. On sait aujourd'hui que ça ne passe pas en référé, hein, puisque les premières décisions nous disent que tout ce qui est force majeure, obligation de délivrance, etc., c'est rejeté. Donc l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ne lui permet pas d'être dispensé du paiement de ses loyers. Pour autant, ces décisions, à ce jour, ne sont que des décisions de référé. Nous attendons évidemment les décisions sur le fond pour savoir ce qu'il en sera par la suite. En attendant, et comme ces procédures sont plus longues, je rappelle que le référé est plus rapide que le fond, bien évidemment, entre-temps, les acteurs se rencontrent et essayent de trouver une solution. Et
justement, ce sont eux qui dégagent les commissions de conciliation. Sont-elles vraiment un bon véhicule? Ça concilie beaucoup dans ces commissions de conciliation?
Alors, de plus en plus. Par contre, j'attire quand même l'attention, et c'est peut-être un appel aussi, il y a des commissions de conciliation qui n'existent plus. Je crois que, par exemple, à Versailles, il n'y a plus de conciliation possible, puisque la commission est éteinte.
Elle se reforme. Les préfets.
Voilà, il faut absolument que les préfets reforment les commissions, mais rapidement.
On a déjà quelques retours et premiers retours effectivement de réintroduction de ces commissions de conciliation qui n'étaient plus utilisées et pas utilisées à leur juste valeur, effectivement.
Exactement. Donc il faut effectivement pouvoir amorcer ce dialogue qui ne se faisait plus pour pouvoir dégager des solutions concrètes et rapides et pas forcément dans le cadre du contentieux.
Équitable
aussi. Jamais équitable aussi. Alors je rappelle quand même souvent, on oublie, le bailleur peut souvent être aussi un ancien commerçant. Oui. C'est peut-être lui qui, à l'aune de sa retraite, a cédé son fonds de commerce, a conservé les murs. Il faut bien avoir en tête aussi que l'effort que l'on demande au bailleur, c'est souvent un effort par rapport à sa retraite, parce que le loyer pour ce bailleur, personne physique, était l'ancien commerçant, c'est en réalité son complément de retraite qui est significatif pour les commerçants. Donc il faut effectivement toujours rester dans l'équilibre, dans la mesure de solidarité que l'on recherche. Le commerçant effectivement a du mal et on doit le supporter, mais le bailleur, lui, a une réalité financière, il a des charges qui sont à mettre en face de son loyer et pour lui, la situation peut être catastrophique par ricochet. C'est pour ça que je voulais rebondir sur la proposition, enfin sur ce que j'ai entendu sur la taxe foncière tout à l'heure de la part du président de la Chambre de l'UNPI de La Rochelle, parce qu'effectivement, je pense que aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il faut redynamiser, et notamment les centres-villes. Il y a des outils qu'on peut utiliser, qui sont déjà existants, instaurer un management de centre-ville. Sur le plan juridique, on peut aussi avoir recours plus facilement à des baux dérogatoires, qui sont des baux de courte durée, d'un maximum de 3 ans. Alors, en pratique, il faudrait aussi que ça suppose des délais raccourcis pour les permis de construire, parce que si on a un bail dérogatoire, c'est bien, mais si on attend 4 ou 5 mois d'avoir son autorisation, ça devient évidemment moins efficace. Et puis, effectivement, sur le plan fiscal, je crois qu'il y aurait des choses à faire avec une fiscalité locale plus intéressante. Je pense qu'effectivement, une dispense de taxe foncière pourrait favoriser l'implantation et le développement des commerces.
Bien sûr, et cette taxe foncière qui est d'ailleurs souvent payée et répercutée sur le locataire, le preneur et le commerçant. Donc c'est une aide au commerçant et non pas une aide au bailleur.
Dans les deux sens, qu'elle soit sur le preneur ou sur le bailleur, effectivement, il faut que cette impulsion soit donnée pour pouvoir redynamiser et soulager, parce que l'effort ne peut pas venir que du commerçant ou que du bailleur.
Bien sûr, alors vous me faites la transition toute faite vers nos amis les commerçants, puisque ce que je disais dans l'éditorial en début d'émission, preneurs et bailleurs, commerçants et propriétaires sont les deux faces d'une même pièce. C'est vrai qu'il y a de nombreux territoires sur lesquels il y a eu de nombreuses actions mises en place pour la revitalisation des centres-villes. Enfin, on parle beaucoup des commerces fermés à Paris, dans les médias ou dans les villes, mais il y a toutes ces villes en banlieue parisienne aussi, périphériques, des villes de province. On avait La Rochelle tout à l'heure, mais il y en a d'autres partout en France. Cette dynamique du commerce, qui soit de centre-ville, pied d'immeuble, centres commerciaux, qui existent aussi dans les centres-villes ou en périphérie, dans des retail parks, il faut impérativement préserver cela, parce qu'on préserve notre économie à travers cela. Alors, on a eu une réponse partielle avec le crédit d'impôt, effectivement, de proposer et en attente de vote par la loi de finances et grâce à Bruno Le Maire, et faut le dire, à l'impulsion des représentants des propriétaires et des commerçants. À Paris, vous êtes donc le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Comment, au niveau de la Chambre de commerce, vous opérez ces aides, vous transmettez les informations et vous aidez les preneurs?
Depuis le début de la crise, en fait, on a une forte mobilisation de nos collaborateurs. On a mis en place une cellule d'urgence. On a 40 collaborateurs qui sont en permanence pour aider les commerçants et les entrepreneurs dans les problématiques qu'ils rencontrent. Le but étant évidemment que ça ne devienne pas une catastrophe que l'on craint, malheureusement. Il faut éviter à tout prix des fermetures majeures des commerces. Sur Paris, je rappelle, il y a 62 000 commerces. À ce jour, vous en avez 40 000 qui sont fermés.
Oui. C'est énorme, c'est colossal.
Vous avez les deux tiers qui ne peuvent pas travailler. Donc il y a les problèmes des loyers, on l'a largement évoqué. Nous, on rapproche évidemment les commerçants, enfin, on les conseille un maximum pour arriver à une transaction à l'amiable avec les bailleurs. Si ça ne passe pas, effectivement, la bonne formule est d'allier sur la commission de conciliation des baux commerciaux. Ça, c'est quelque chose que l'on favorise. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à sauver les commerces. Les loyers représentent entre 10 et 20%, si vous voulez, des coûts en règle générale. Au niveau des salaires, il y a eu beaucoup de choses de fait par le oui. gouvernement, on l'a dit, et ça, on peut en être que reconnaissant. Mais la problématique, c'est que ça ne suffit pas. Des commerces qui sont fermés en permanence, vous avez des hôtels qui, depuis 8 mois, n'ont aucune activité. Les restaurateurs, c'est pareil. Bon, sur Paris et l'Île-de-France, on a quand même une forte économie touristique qui est, vous l'avez dit dans votre introduction, on, bien sûr, le tourisme international qui est complètement à l'arrêt, mais le tourisme d'affaires également. Je rappelle que les salons, les congrès, tout ça sont arrêtés. La Chambre de commerce de Paris-Île-de-France gère ce secteur et nous avons fermé le site de Villepinte totalement. Enfin, il n'y a plus d'événementiel. Donc, il dit plus d'événementiel, plus de visiteurs, plus de
consommation.
De consommation. Ouais. Et ça, c'est un effet domino. Ça touche les restaurants, et ça touche, prenez les taxis, enfin, tous les transports et beaucoup d'activités qui travaillent pour les montages des salons. Enfin, tous les gens qui sont dans l'événementiel ne travaillent pas du tout. Donc, il leur faut des aides. Il y a les problématiques des loyers, effectivement, pour les commerçants, mais ça ne suffira pas. Alors, il y a, sur le commerce, je voudrais aussi rappeler qu'à Paris, sur les 62 000, vous avez à peu près 10% des commerces qui sont gérés par les bailleurs sociaux, par la ville de Paris. Oui. Et vous avez un groupement qui est le GIE Paris Commerce et qui a mis en place très rapidement un système avec une étude personnalisée pour pouvoir effectivement abandonner des loyers. Et c'est vraiment déjà quelque chose qui est... On peut remercier la ville de Paris d'être allé assez rapidement dans ce sens.
Dans la réorganisation du commerce pour l'avenir, pour le rebond, alors on a espéré un rebond cet été, puis on s'est à nouveau étalé au mois de novembre, dans une période qui constitue quand même une grosse partie du chiffre d'affaires annuel de l'ensemble des commerces. Oui. Est-ce que la ville de Paris ou d'autres... j'ai entendu que Bercy avait des initiatives sur des sites de e-commerce indépendants pour ces commerçants. Qu'est-ce qui se met en place pour justement essayer d'au moins avoir des rentrées qui payent les charges?
Depuis longtemps, on préconise d'aller vers un commerce digital. On parle maintenant d'un commerce figital qui est une alliance entre le commerce physique et digital. Pourquoi? Parce que quand on parle de digital, les commerçants souvent ont un peu peur en disant j'ai un site internet, etc. C'est pas forcément d'ouvrir un site internet qui est la priorité, mais c'est dans le système du digital, parce que les consommateurs, sont eux qui dictent les règles actuellement. Le consommateur, il est très volatile, il utilise sa tablette, son portable, etc. Donc il faut rentrer dans ce réseau. Depuis des années, on travaille au sein de la Chambre pour les aider à se mettre en place, avec la ville de Paris et avec la région. Vous avez des mises en place financières. Il y a un chèque numérique qui est en place de 1 500 euros par la région, qui est très facile à obtenir, pour permettre soit de monter un système, un site, un petit peu, un premier site peut-être, puis de rentrer dans le système digital pour travailler avec le click and collect. Alors, vu cette deuxième vague qui vient d'arriver, on continue bien sûr à former les commerçants dans ce domaine, qui sont quelquefois réticents, hein, c'est pas toujours facile de les persuader de travailler quand même un peu dans ce domaine. Et il y a des aides totales et gratuites qui sont mises en place pour les aider dans cette nouvelle démarche commerciale. Et je peux vous dire qu'on a une nouvelle plateforme numérique qui va être mise en place très prochainement, c'est-à-dire le 24 novembre, puisqu'on a signé en fin de semaine dernière, la CCI Paris-Île-de-France, une convention avec le groupe La Poste pour monter une plateforme numérique que l'on peut dire éphémère, mais qui pourra se poursuivre dans le temps. Mais jusqu'à la fin de l'année, tous les commerçants pourront être accueillis sur cette plateforme qui portera le nom de Place de Noël. Donc ouvrir un site très facilement et avec des conditions exceptionnelles faites par le groupe La Poste, puisqu'il y aura une gratuité pour monter ce site. La Poste s'engage également à livrer, à organiser un service de livraison à prix coûtant à 4 euros et les commissions seront réduites jusqu'à la fin de l'année et elles seront de 4,5% au lieu de 9%. Donc vous voyez qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour relancer dans ce domaine et pousser les commerçants individuels à aller vers cette digitalisation.
Une boutique éphémère numérique, comme on peut le voir parfois, de boutiques éphémères qui sont installées très, très, très brièvement, mais qui permettent de vider des stocks.
Qui permettent de vider les stocks, puis peut-être de les amener à poursuivre peut-être ou d'agrandir leur site. En plus de ça, on a aussi toute la géolocalisation qui est mise en place. Vous avez deux sites, la ville de Paris en a mis en place, et la CCI Paris-Île-de-France a un système qui s'appelle Mon Commerce à Domicile, où là encore c'est gratuit, les commerçants s'inscrivent dessus. Les villes autour de Paris, petite et grande couronne, peuvent participer de manière à ce que les consommateurs retrouvent dans leur ville les commerces qui sont ouverts et qui peuvent pratiquer le click and collect ou assurer des livraisons.
D'accord. Au niveau des grandes foncières, ou des moyennes et petites foncières d'ailleurs, dans les centres commerciaux, on sait que c'est des espaces qui sont souvent très innovants. On marie parfois l'art avec le commerce, avec des commerces de destination. Il y a le loisir aussi qui s'insère depuis quelques années dans ces centres commerciaux. Quelles sont les démarches, les innovations pour des centres commerciaux? Je pense par exemple au 4 temps qui à la fois est fermé en partie, mais en plus sa clientèle habituelle qui normalement va au bureau est en télétravail. Donc l'achalandise diminue quand même beaucoup. Est-ce que il y a des dispositifs particuliers qui peuvent être mis dans ces centres commerciaux?
Oui, alors pour reprendre ce que disait Gérald, je crois que la digitalisation, c'est un phénomène qu'on n'arrêtera pas. Le consommateur aujourd'hui veut pouvoir consommer n'importe quand, n'importe où, sur tous les canaux possibles inimaginables. Donc les foncières également se sont associées à ce mouvement et le développent avec des initiatives notamment en termes de click and collect, de mutualisation, à la fois de mutualisation financière et puis mutualisation physique avec des espaces de retrait commun. Donc il y a des initiatives qui sont prises, je ne vais pas citer toutes les foncières qui le font, mais des Carmila, des Falsbourg, le groupe Frey, mettent en place effectivement des mesures de ce type. Et je crois que c'est l'avenir, parce qu'effectivement l'avenir, Gérald l'a dit, est figital, il a raison. On ne peut pas obliger un consommateur à consommer soit sur son iPhone, soit en magasin. Je crois que les deux se combinent parfaitement. Et ce n'est plus tout à fait une chimère, mais je pense qu'à terme, on aura systématiquement le centre commercial physique avec son offre et en parallèle son avatar digital, oui, avec effectivement une gestion en temps réel du stock des magasins, ce qui permet aux consommateurs soit d'abord d'aller sur le site digital de regarder, éventuellement d'acheter, de se faire livrer ou d'aller chercher son produit en click and collect, ou au contraire d'aller dans le centre commercial et puis ensuite, une fois qu'il a fait un peu son activité de showroom, il revient chez lui et il commande sur le site. Voilà, donc il faut vraiment une correspondance parfaite entre les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technique le permet. Idéalement, je pense qu'on va voir apparaître des centres commerciaux qui seront à la fois physique et digitaux, avec la même offre commerciale en temps réel et la possibilité de s'informer et d'acheter soit en physique, soit en digital, avec effectivement des techniques de click and collect qui, au niveau d'un centre commercial, peuvent être mutualisées pour faciliter la vie du consommateur et la vie des commerçants.
Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de durable? C'est un mouvement durable, on l'a vu en entreprise, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à utiliser Zoom, Teams, tous les outils pour dialoguer, etc. On sent que ça s'inscrit dans le temps, c'est pas juste un patch le temps d'une crise, on peut pas vraiment aller dans les bureaux, le commerce, enfin les immeubles de bureaux sont réinventés pour l'avenir, pour ceux qui le peuvent évidemment. Hein. On revoit un marché se recomposer, on a une crise, donc nécessairement il y a des dégâts, il y a des enseignes qui ferment. L'hôtellerie-restauration, l'habillement, le textile, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui prend de plein fouet. Mais en positivant un peu, en se donnant quand même quelques bonnes nouvelles, est-ce que c'est pas aussi un moment qui a permis de déclencher, je crois qu'on parlait on a gagné 5 ans dans les entreprises, dans la digitalisation de nos rapports avec les collaborateurs et dans l'utilité de ces outils numériques, pas juste pour faire beau et montrer qu'on est fort parce qu'on utilise de beaux outils numériques, dans les centres commerciaux, pour le commerce, pour le figital, parce qu'on veut conserver ce parti physique, sa relation personnelle qu'on a avec son commerçant, quel que soit l'endroit d'ailleurs où il est, est-ce que ça a permis de gagner du temps et au moment de la reprise, on l'espère, dans quelques mois, quand on aura un vaccin et qu'on aura terrassé ce fichu virus, ça va perdurer et nous permettre de relever la tête peut-être plus vite?
Alors oui, d'ailleurs, les chiffres le prouvent. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'indice national CNCC Cantaflow pour la fréquentation des centres commerciaux, lors du premier confinement, la baisse a été de 80%. Effectivement, beaucoup de commerçants n'étaient pas encore organisés, équipés pour pratiquer le click and collect. Elle n'est plus que de 60%, ce qui est encore beaucoup, mais elle n'est plus que de 60% pour les 15 premiers jours de novembre. Donc ce qui prouve qu'effectivement, il y a une activité click and collect qui s'est développée. Après, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le 100% digital, je crois que ça serait catastrophique. Il faut quand même rappeler que le commerce, il a un rôle économique, bien entendu, mais il a un rôle social aussi très important. Il y a une expression en vieux français qui dit être de bon commerce. Être de bon commerce, c'est être dans l'empathie, dans le lien social. Précédent président, Antoine Frey, disait souvent aux journalistes, imaginez qu'il n'y ait que du commerce digital, il faudrait inventer le commerce physique. Donc je crois que l'avenir, c'est dans la combinaison intelligente et les nouvelles technologies le permettent, de ces deux aspects du commerce, à la fois l'aspect physique et l'aspect digital.
Anne-Lefort, au niveau de la rédaction des baux, le point de vue juridique, est-ce qu'il va y avoir des bouleversements dans ces rédactions de baux, dans la durée des baux, dans des clauses particulières, de la répartition de certaines charges, dans la participation peut-être plus au chiffre d'affaires du commerçant par rapport à son loyer? Est-ce que ça va changer au-delà de prévoir des clauses en cas de pandémie, le loyer est dû ou pas dû?
Oui, selon, la théorie de la prévision, on en a beaucoup parlé. Exactement. Alors, sur les charges, oui et non, parce que vous savez qu'une partie est parfaitement réglementée depuis la réforme de la loi Pinel du 18 juin 2014. Donc il reste un certain panel de charges qui reste contractuel et donc qui résulte de la négociation. La taxe foncière fait partie d'un élément qui est libre entre les parties, donc elle peut être aussi bien à la charge du bailleur qu'à la charge du preneur. C'est d'ailleurs souvent un point de négociation assez important lors de la rédaction des baux. Non, vous évoquiez la clause recette. Il y a eu, à l'issue du premier confinement déjà, dans le cadre des négociations amiables, sur des demandes d'abandon de loyer ou autres, des rédactions de clauses recettes, oui, ou des avenants avec des clauses recettes, puisqu'effectivement, comme disait dans votre reportage le bailleur interrogé, en disant « mais oui, mais quand tout va bien, nous ne sommes pas intéressés au chiffre d'affaires ». Donc il y a eu des clauses en ce sens qui ont pu être négociées. Les commerçants sont plutôt réticents. Ce sont des clauses qu'on trouve d'ailleurs le plus souvent en centres commerciaux et plus rarement en pied d'immeuble. Mais il y a effectivement ce type de clause qu'on a pu insérer ces derniers mois dans le cadre des avenants de négociation qui permet de se dire « on prend le risque main dans la main, je suis bailleur, je vous aide, j'aide mon commerçant, mais quand il y a un retour à meilleure fortune, j'en profite également ».
C'est le partage des gains, c'est mieux que de partager les efforts. Parfois, en tout cas, ça permet d'être un peu plus motivé quand on se dit que lorsque les gains sont là, on les partage aussi. Dans les mesures du gouvernement, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que commerçant, qui pourrait arriver? Parce que le confinement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. A priori, ça va rouvrir le 1er, ou on espère le 27 novembre, ou le 1er décembre, ou le 2 décembre, ou pas. Totalement, partiellement, et en tout cas, visiblement, le confinement va se poursuivre, en tout cas pour tout un chacun, jusqu'aux vacances de Noël.
Ce que demandent les commerçants, c'est de travailler.
Bien sûr.
Ils ont besoin d'aide pour être sauvés. Encore une fois, je reviens là-dessus, il faut qu'on évite d'avoir un maximum de commerces qui disparaissent ou d'enseignes. Mais le but, c'est déjà de retravailler un minimum. Il y a des solutions que l'on propose, ne serait-ce que de pouvoir rentrer sur rendez-vous dans les commerces. Je rappelle que tous les commerçants se sont, dès la première vague, la première crise de cette Covid, ont mis en place tous les systèmes de protection, les plexiglas, les gels, ils ont joué le jeu, tous, tout le monde, à fond, très vite. Bon, et il faut qu'on limite, on comprend que l'on soit obligé de respecter les normes sanitaires. La première raison, il faut raison garder, je dirais, pour effectivement protéger les individus avant tout, mais croyez-moi, les commerçants sont des gens raisonnables, donc il faut retrouver des règles en accord avec le gouvernement. Une des premières procédures qui pourrait être mise en place vraiment très très vite, c'est la possibilité de rentrer dans les magasins sur rendez-vous. Sur rendez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux important. Et on entend souvent les gens qui disent on laisse rentrer dans des grandes surfaces, même s'il y a quelque chose qui est modéré dans les entrées de ces grandes surfaces. Après, vous vous retrouvez dans les rayons qui n'ont pas été élargis, on est tous les uns sur les autres. Bon, il faut fluidifier tout ça. Il faut peut-être s'organiser, avoir des meilleurs contrôles. Il y a une chose qui est absolument pas comprise, c'est si on prend les transports parisien ou dans les grandes villes, vous avez les gens rentrent dans le métro, il n'y a aucun contrôle, on peut être collés les uns à côté des autres, et puis
on ne prend pas de gel nécessairement à l'entrée pour rentrer dans les
forcément à l'entrée, on va toucher les poignets, les barres, etc. pour se tenir. Bon, et à côté de ça, on interdit de rentrer dans un magasin qui a pris toutes les précautions et qui reçoit peu de clients à la fois. Si vous regardez dans l'ensemble des commerces, vous avez les affiches qui sont mises, on peut accueillir 2 clients, 4 clients, 6 clients en fonction de la taille du magasin. Les gens attendent dehors, alors peut-être élargir un petit peu les présences extérieures, que les gens ne soient pas agglutinés, mais il faut libérer vraiment pour que les gens puissent retravailler. C'est la vraie urgence.
Le Black Friday, vous pensez qu'il faut l'annuler, il faut le permettre de le mettre en place dès la rouverture, au risque d'avoir justement un flux de personnes un peu important dans les magasins. Est-ce que c'est une bonne chose, le Black Friday, parce que c'est quelque chose qui vient d'un monde anglo-saxon,
oui, bien sûr.
Qui s'est installé chez nous depuis quelques années.
On a repris des études au niveau de la Chambre de commerce, puis ça fait une dizaine d'années que c'est en place. C'est en montée très très forte depuis les dernières années. Annuler le Black Friday, on ne peut pas, ce n'est pas réglementé par la loi. C'est une promotion commerciale qui est faite par les distributeurs, les enseignes, etc. Donc on ne souhaite pas du tout que l'État s'immisce dans la gestion des promotions ou autres. Bon, et d'abord, enfin, il ne le peut pas. En revanche, c'est vrai qu'on entend actuellement tout le jeu du Black Friday. Si les commerces restent fermés, risque de faire le jeu d'Amazon ou des grands...
ceux qui ont le e-commerce qui est en place.
Ouais. Voilà, ceux qui ont cette possibilité. Et ce chiffre, le Black Friday chez les commerçants indépendants, est très très fort. Ce week-end-là, et en commerce physique. Hein, même,
c'est important de le dire, parce que souvent, on imagine toujours les grandes plateformes...
Pas du tout. En fait, on a vu les chiffres il y a deux ans, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2019, mais sur 2018, on voyait une réaugmentation de 6 milliards de chiffres sur ce week-end-là. 5 milliards est fait en commerce physique. Donc il n'y a qu'une partie d'un milliard qui est faite en digital. Donc on se bat avec les fédérations, les chambres de commerce pour redemander l'ouverture le 27 novembre. Évidemment, si la crise sanitaire le permet, entre ouvrir le 1er décembre et le 27 novembre, je crois que ça change grand-chose. En plus, alors on nous rétorque, oui, mais il va y avoir un afflux dans les magasins, etc. Plus on va retarder l'ouverture des magasins, pire ça va être. Les consommateurs, si on imaginait qu'on donne une autorisation le 20 décembre, vous imaginez ce que ça va donner, c'est impossible. Donc je crois que raisonnablement, les signes actuellement vont dans le bon sens, plutôt de régression lente actuellement, enfin ce jour, mais vont dans le bon sens. Bien sûr, en gardant toute la mise en place des normes et de protection dans les magasins, mais il faut donner la possibilité
ça permet
d'ouvrir pour le Black Friday.
De gérer et de fluidifier les flux et ne pas avoir une cohue, évidemment, sur les week-ends de fin décembre. Je voudrais terminer cette émission, Gontran, avec cette question du financement. On a les petits bailleurs qui, ont leur emprunt, etc., mais il y a aussi les sociétés cotées qui pèsent quand même beaucoup dans notre économie. Il y en a qui sont cotées même au CAC 40. On a vu certaines sociétés vouloir se recapitaliser. Bon, ça a été un échec pour certaines. Il y a quand même un vrai sujet de financement, puisqu'il y a des sociétés cotées qui ont perdu la moitié de leur cotation boursière, de leur capitalisation. Et donc, ça pose aussi problème pour cette capacité à réinvestir, surtout que ces foncières sont dans divers domaines, sur le bureau, sur l'événementiel, etc. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée de janvier, février et à la reprise? Est-ce que les capitaux seront là, ils seront suffisants pour soutenir cette économie?
Alors, beaucoup de questions, plusieurs réponses. Bon, la première, heureusement, les cours de bourse ne reflètent pas la valeur des actifs. Oui. Bon, la bourse, ça va, ça vient. Comme dirait l'autre, on n'est pas vendu, vous n'avez pas perdu. Cela dit, c'est vrai, vous avez raison, le business model d'un certain nombre de ces grandes foncières, c'était utiliser l'effet de levier de l'endettement. Donc avec des covenants, comme on dit, qui sont signés avec les banques, avec un ratio loan-to-value qui doit être respecté. Et effectivement, il peut arriver, il y a notamment une foncière anglaise, Into, pour ne pas la nommer, qui effectivement s'est retrouvée en défaillance, entre guillemets, par rapport à ces covenants. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui encore des foncières françaises. Je crois aussi que y a un bashing un peu excessif, notamment de certains analystes financiers par rapport aux actifs retail. Il y a sans doute eu des excès les dernières années, c'est-à-dire que les taux de capitalisation entre les bons et les mauvais actifs se sont beaucoup trop rapprochés. Mmh. Bon, comme vous le savez, les actifs vont être expertisés en fin d'année. On pourra constater chiffres en main si effectivement les experts estiment qu'il y a de la perte de valeur. Je pense qu'elle ne sera pas encore très importante cette année. Ça va dépendre effectivement de l'issue de cette crise pandémique. On a vu que l'annonce d'un vaccin pouvait faire exploser de 20% des cours de bourse en une journée, y compris des cours de bourse de foncière. Donc voilà, je crois qu'il faut raison garder. On a peut-être été un peu déraisonnable ces récentes années. On a peut-être monté trop en valeur les actifs retail. avec, comme je le disais, peu de différenciation entre les moins bons actifs et les meilleurs actifs. J'en profite pour faire une petite page de publicité, si vous permettez, mais le CNCC organise le 3 décembre, c'est ouvert à tous, tous les renseignements sont sur notre site, une conférence qu'on avait prévu de faire pendant le siècle, le salon qu'on a dû reporter à l'année prochaine, sur l'investissement avec un triptyque, investissement financièrement rentable, c'est la question que vous me posez, mais également l'investissement socialement responsable et territorialement engagé. Parce que comme pour le commerce, je crois que l'investissement commercial, il n'a pas qu'une valeur économique. Il a aussi une valeur sociale, sociétale qui est importante, qu'il faut rappeler. Et nos adhérents bailleurs sont tout à fait prêts, effectivement, à s'engager dans cette voie. Donc le 3 décembre, toutes les infos sur le site du CNCC, si je peux me permettre cette petite page de pub.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être venus pour cette émission. La question du commerce, donc à l'aune de cette crise. Oui, je vous en prie.
Et oui, je voudrais simplement donner un numéro d'urgence qui a été mis en place, qui est au sein de la CCI Paris-Île-de-France. C'est le 01 55 65 44 44, où on a des conseillers qui sont là en permanence pour aider les commerçants qui ont, quelle que soit la problématique, de difficulté. Alors bien sûr, la chambre de commerce, elle est ouverte à tout type. On n'est pas que sur les commerçants indépendants. On représente les commerçants des centres commerciaux ou la grande distribution. D'ailleurs, on n'est plus dans cette opposition. Souvent, on en parle encore. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Il y a une vraie, maintenant, synergie entre tous ces modes de distribution. Voilà, mais ce sont plus certainement les indépendants qui ont besoin de ces numéros, c'est pour ça que je l'ai rappelé.
Et puisqu'on est à l'heure de la publicité, moi je vais en profiter pour parler des chambres de propriétaires aussi, que les bailleurs, petits, moyens, gros, peuvent consulter partout sur les territoires. Il y en a une centaine partout en France. Il y en a une à Paris, rue de Longchamp, dans le 16e. Mais il y en a aussi à La Rochelle, il y en a dans tous les départements, parfois même plusieurs par département. Et on est là pour aider les propriétaires qui peuvent venir d'ailleurs avec leurs locataires pour faire une préconciliation s'ils ne souhaitent pas nécessairement saisir cette commission départementale de conciliation qui existe pour les baux commerciaux, mais pour les baux d'habitation aussi. Merci à tous d'être venus ce matin et on a pu échanger de manière très constructive et intelligente, je trouve, sur ce sujet du commerce et pas que. Et on va suivre ça de très près et on attend les votes, puisque maintenant que c'est dit, notamment sur le crédit d'impôt, on attend la mobilisation des collectivités locales, mais aussi du vote de la loi de finances très prochaine. Merci à tous et à bientôt.
« 25 millions de propriétaires », une émission présentée par Pierre Otus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.